Bonjour à tous et bienvenue dans Écouter pour mieux s'entendre, une émission qui donne la parole à des gens qui ont choisi une vie en dehors des sentiers battus. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Lydie qui a décidé il y a 7 ans de réaliser son rêve, vivre dans la forêt. Nous allons revenir avec elle sur son histoire qui l'a menée ici et sur son quotidien qui, vous le verrez, sort de l'ordinaire. Bonne écoute! Donc là, je viens d'arriver à l'entrée du chemin qui mène jusqu'au lieu de vie de Lydie, qui s'appelle le paradis. Ça ne s'invente pas. Elle vient de m'appeler là pour m'expliquer que le chemin pour s'y rendre a été très accidenté. Et effectivement, déjà pour rentrer, j'ai beau avoir une petite voiture, et ben il y a les ronces de chaque côté, il y a des trous. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans une forêt? Déjà, c'est arriver par un petit sentier escarpé. Oh là là. Elle m'avait bien dit, tu pourras slalomer entre les trous. Vous allez voir, Lydie, elle a une petite voix tellement douce, tellement calme, agréable. Bon, allez, j'arrive... sur le petit parking. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. Et donc je rentre dans son petit domaine. Il est écrit « Bienvenue dans la forêt sacrée. Les esprits de la nature sont omniprésents et veillent sur chaque brin d'herbe. Pour entrer dans ce monde, vous devez suivre quelques règles. Ne vous inquiétez pas, elles sont simples. » Respectez les panneaux qui délimitent les espaces interdits ou privés. Empruntez le plus possible les sentiers. Prévenir Lydie avant de venir. Et demander l'autorisation avant de couper une branche, de faire un feu, de cueillir des fleurs ou de bouger des cailloux. Ici, vous êtes naturellement connecté. Voilà, et il y a un petit téléphone qui est barré. Donc je crois que je vais prendre mon téléphone et me mettre en mode avion pour respecter ce lieu. Je rentre chez elle. Donc là, je viens d'avancer sur le petit chemin où je suis passée entre des carrés potagers et je m'arrête devant un affichage. Sur une ardoise, il est écrit « Je m'accepte totalement, j'accepte les autres tels qu'ils sont. Par ce respect, la paix s'installe en moi. » C'est une belle expérience. Une petite sonnette avec une grenouille. Je vais peut-être annoncer ma présence. Est-ce que on se pose peut-être, on va s'asseoir?
Ouais, on va aller à côté. J'ai préparé un petit une infusion à la menthe, un peu de la menthe et de la camomille, ça te va?
Ah, c'est parfait. J'enlève mes chaussures, hein, je vais être bien aussi pieds nus. Je peux rentrer? Ça fait combien de temps que tu vis ici?
7 ans.
Ah ouais, 7 ans déjà.
Ouais.
Et tu te sens bien ici?
Ah bah ben là, c'est juste du bonheur, j'aurais du mal à vivre.
Ailleurs? Ah ouais.
Ah ouais.
T'appréhendes pas du tout les saisons plus humides et... Non, ça va?
Non, à chaque fois, c'est du bonheur. Je pensais, hein, quand je suis venue là au départ, je me disais, bon, l'été, ça va être super, il va faire beau... Mm. Et puis l'hiver, ce sera sûrement difficile. Mmh. Mais en fait, chaque saison, c'est juste merveilleux.
Merci.
Chaque saison a son charme.
C'est une femme qui est rigolote. Elle a des petites lunettes toutes rondes, une petite voix toute douce. Elle a des dreadlocks. Elle est toute fluette. Elle dégage beaucoup de sérénité.
Tu veux qu'on se mette là sur la table ? Ça me fait très plaisir. Déjà dans ce contexte, c'est rigolo. Mais je suis contente de venir découvrir ton lieu. J'ai quelques petites questions à te poser. Pour comment on en arrive à vivre dans une forêt en Bretagne, dans le pays de Brocéliande ?
Moi, ça m'a toujours attirée. Ça a toujours été un rêve. Mais en grandissant, je me suis dit, bon, je ne pourrais pas. Et puis, j'habitais au bord de l'eau. J'avais une boutique. J'avais une maison au bord de l'eau. J'avais deux enfants qui allaient bien, un compagnon, et j'étais super malheureuse en fait. J'avais tout ce que la société voulait.
C'était où, au
bord de l'eau ? À 5A.
Ah oui.
J'avais tout ce que la société disait qu'il fallait avoir pour être heureuse. Et en fait, ça allait pas du tout. Quoi. Ça se voyait pas de l'extérieur, mais moi je savais que ça allait pas du tout. Et un jour, j'ai fait un stage. Et dans le stage, là, on a fait une méditation toute simple, le premier jour. Et puis, dans cette méditation-là, on connectait qui on voulait. Et moi, j'ai appelé la Vierge Marie, et puis on demandait ce qu'on voulait aussi. Donc, moi, j'ai demandé à être heureuse, qu'elle m'aide à être heureuse. Et le soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert la porte de ma maison, il n'y avait personne. Et là, j'ai su, il n'y a pas très longtemps. Avant, je disais que c'était une voix, mais en fait, c'était la Vierge qui est venue. Je ne l'ai pas vue, mais je l'ai entendue comme si ça résonnait à 150 mètres aux alentours. Et là, elle m'a dit, si tu veux être heureuse, tu quittes tout ça. Et le soir, je ne me suis même pas posé la question, je l'ai quitté. Et le soir, j'ai annoncé que... voilà. Et après, il s'est passé plein de choses. Un magasin, on ne peut pas le laisser du jour au lendemain, donc il a fallu un petit peu de temps. Et au lieu de vendre des vêtements, je m'étais mise à la numérologie. Et puis, je commençais à faire tout ce qui me plaisait. Du jour au lendemain, je me suis dit, je vais faire dans ma vie que ce que j'ai envie. Donc, le magasin de vêtements s'est aussi transformé en atelier de peinture. Et quand les gens venaient pour chercher une tenue pour un mariage ou autre, on parlait d'autre chose, elle repartait, j'avais complètement oublié, et puis elle aussi. Donc mon chiffre d'affaires, il est tombé en quelques mois, ça a été assez difficile, parce qu'à l'époque, je m'occupais de l'extérieur, tu vois, avant de la personne. J'avais envie de les rendre belles, les femmes, je les faisais défiler, c'était génial. Et après, ça ne m'intéressait plus du tout, c'était leur intérieur qui m'intéressait. Et donc, le magasin était toujours là. Et puis, de fil en aiguille, j'ai perdu tout ce qui était financier. Mais tout en étant quand même toujours alignée et contente de mon choix. Et puis, l'univers m'a tout redonné à son rythme, mais tranquillement.
Oui, tout ça, ça se passe en combien de temps, en fait, entre... cette méditation et...
Alors là, ça fait 12 ans.
Donc si ça fait 7 ans que tu es là...
Oui, j'étais sur les routes, j'ai fait plein de choses. Du coup, je suis partie en Inde, en Espagne. J'avais jamais voyagé. J'ai fait tout ce qui...
Les enfants avec quel âge ?
Alors, ils étaient assez jeunes. Mon fils avait 10 ans et ma fille 14.
Ouais, mais c'était quand même des pré-ados, ados. Oui, pour eux aussi, c'était un changement de vie.
Ouais,
tu les embarquais un peu avec toi dans ce changement, quoi. Et alors, pourquoi cette forêt ?
En fait, je me disais, j'allais partir quelque part en France, mais plutôt pas en Bretagne, je connaissais déjà. Et j'avais étalé une carte de France sur la table. Et puis, avec mon pendule, je cherchais un petit peu où aller. Et des fois, mon pendule, il faisait à chaque fois... Il faisait l'hélicoptère, il allait très très vite. C'était vers la région de Gap. Mais ce qu'il y a pour voir mes enfants, pour retraverser la France, c'était beaucoup trop long. Et puis, je regardais sur des sites de notaires, un petit peu les endroits nature, en fait, j'aurais aimé avoir un lieu où je puisse poser une yourte, où il y ait des arbres, et éventuellement pas trop plat, une petite roche dessus, ça aurait été la cerise sur le gâteau, et une rivière pas trop loin. Et en fait, et j'avais un budget je m'étais donné. Et puis, en cherchant, un jour, mon compagnon de l'époque me dit « Oh tiens, j'ai trouvé quelque chose qui a l'air pas mal. » Parce que voilà, j'étais en train de bricoler, et puis lui, on cherchait tous les jours pendant un moment. Et puis, je viens voir, je vois le prix, je dis bah, « C'est même pas la peine. » Ça faisait 4 fois ce que j'avais prévu. Puis il me dit « Oh, je retourne à faire mes choses. » Et puis, il me dit « Oh, ben, moi, je vais regarder quand même les photos, ça a l'air pas mal. » Je dis « Bon, d'accord, je regarde quand même. » À peine j'ai regardé une photo, je me suis sentie aspirée. « Oh non, qu'est-ce qu'ils me font là ?»
Et c'était le paradis.
Et c'était, ouais, c'était le paradis. Et je me suis dit « Bon, d'accord, je vais aller visiter, mais... Bon, je sais déjà, mais peut-être
pas. » Ça
coche
pas tous mes critères.
Et puis en fait, je suis à peine arrivée au bout du chemin de 700 mètres avant de venir, que déjà je savais. Et j'avais demandé 3 signes. Et j'ai eu les 3 signes, mais ça l'a fait que je savais de toute façon que ça devait être comme ça.
Et donc quand tu es arrivée sur ce lieu, il n'y avait rien du tout.
Oui, il y avait le petit cabanon.
Tu avais l'option de ramener une petite tiny house, par exemple, ce genre de choses. Il y avait des options d'habitation légère.
Oui, au départ, je dormais dans mon camion, où je sortais une tente. J'avais mis aussi à un moment un petit barnum et une serre, pour déjà voir les endroits où je me sentais bien. Et puis voilà, petit à petit, quelques petites cabanes.
Il y a une petite mésange là. Elle est toute petite.
Oui, elle est petite. Enfin là, elles ont grandi déjà.
Et la yourte. En fait, j'ai toujours pensé que c'était une yourte, mais t'as pas de yourte en fait.
Non, non. C'est une hutte.
Mais oui, c'est une hutte. Dans mon esprit, tu vivais dans une yourte. Je sais pas pourquoi. Il n'y a jamais de yourte sur ce lieu ?
Non.
D'accord. Ok. Je pense que c'est quand j'avais vu des photos.
Mais
de
l'intérieur,
ce côté circulaire.
En fait, je voulais garder ce côté rond. C'est important pour moi, le rond, et puis assez haut. Mais j'aurais été toute seule, en fait. J'aurais juste fait une petite chambre, et voilà. Mais comme j'avais envie d'accueillir des gens, il faut quand même qu'ils puissent être à l'abri quand il pleut.
Et comment elle a été construite ? Du coup, t'as eu de l'aide un petit peu ? C'était pas un chantier participatif
On a fait de temps en temps, mais principalement, on a fait à 3. On a mis 9 mois.
Et c'est le poêle, il est dense dans cet habitat-là ?
Oui, enfin, il y en a dans chaque.
Ah, il y en a un dans chaque. Et donc le bois, tu arrives à le trouver
avec
sur ton terrain ?
Avec les arbres morts.
Ça fait partie de tes missions l'hiver, non ? Ou même plutôt l'été ?
Ah oui, oui.
Stocker
là,
du bois.
Maintenant, il vaut mieux stocker le bois maintenant. Bah, il m'a fallu plusieurs années pour comprendre le bois.
Le faire sécher.
Au début, je me suis dit, bon, bah, c'est super, il y a du bois partout, je vais prendre du bois. Et puis, Mais en fait, non, il faut qu'il sèche au moins 2 ans. Il faut le couper. Il y a une façon de faire le feu, on ne met pas les bouches comme ça directement. Ouais, au départ, je n'y connaissais rien, donc ça ne marchait jamais. Donc, il faisait plutôt froid.
Ouais.
Et maintenant, le matin, des fois, il fait froid l'hiver, et je vais chercher quelques bûches. Je les taille. Une fois que je les ai taillées, ben, j'ai plus froid. En fait, je me suis réchauffée, donc ça ne sert plus à rien de faire du feu. Je vais me promener faire autre chose.
Et c'est sûr de se mettre en mouvement déjà.
Ah oui, oui, oui.
Ouais. Et je pense que ton corps s'est habitué aussi aux températures plus fraîches.
Oui. Je reste assez frileuse, mais oui, le corps s'habitue quand même.
Que je me dis le rapport au confort, tu vois, on n'a pas tous le même rapport, mais...
Ah ben là, le confort, ça change. Hein. Ouais. Ici, on n'ouvre pas un robinet pour avoir de l'eau. Ouais. Et de l'eau chaude, il faut couper le bois, faire du feu, mettre de l'eau, aller chercher l'eau.
Tu chauffes ton eau avec le bois.
Oui. Mais du coup, ça rend le caractère sacré de chaque chose, de chaque geste. Et ça fait faire toutes les actions différemment, en conscience, beaucoup plus.
C'est vrai que ton taux de carbone, il n'est pas très élevé.
Ah, il est du tout. Du tout, du tout. Ouais. Et ouais, c'est important aussi pour moi de recycler tout ce que je prends. Donc quand je vais acheter quelque chose, je me dis ok, mais j'en fais quoi après? Parce qu'on est responsable de ces déchets. Et quand on les met dans la poubelle, ben, on donne sa responsabilité à quelqu'un d'autre qui en fait des fois quoi. De toute façon, ils vont rester des déchets pas forcément recyclés ou au bon endroit. Donc là, tu vois, quand je prends une boîte de conserve, je le mets, je mets mes fraises dedans. Quand j'achète quelque chose, je fais attention que ce soit pas du plastique, que ce soit du papier. Ça m'aide à allumer le feu l'hiver. Mmh. J'achète en gros, par des réseaux de grossistes bio. Donc je vais avoir des gros sachets, pas d'emballage et surtout pas de plastique. Et quand je me fais plaisir de temps en temps à me prendre un petit yaourt, et ben du coup ça me sert après quand je fais ma peinture pour faire mes mélanges.
Parce que du coup tu es végane.
J'ai aucune étiquette, mais je supporte mal le lait de vache et je supporte mal aussi le gluten, très mal. Et là, ça fait 4 ans que j'ai été piquée par une tique, mais ça fait 2 ans où elle m'a vraiment paralysée, immobilisée et tout ça. Et là, je me suis rendu compte que quand même, quand on est tout seul, dans un endroit où rien n'est facile, quand on n'est pas en bonne santé, c'est assez compliqué. Bon. Mais ce serait encore plus compliqué d'aller s'enfermer dans un endroit.
Dans un appartement.
Style, ouais. Encore que ça peut être aussi, des fois je me dis, bon, un petit appartement, juste pour avoir un bureau avec internet qui fonctionne pour pouvoir travailler plus facilement. Et puis prendre un bain de temps en temps, une douche chaude l'hiver quand il fait très froid. Mais juste occasionnellement, quoi.
T'as déjà quand même. T'as déjà vécu des moments vraiment difficiles quand même où là tu t'es dit c'est dur.
Une fois j'étais avec Lyme, là j'étais paralysée pendant 2 semaines. J'étais toute seule. Mon compagnon n'était pas là de ce moment-là. Enfin il vit pas là tout le temps. Il vient de temps en temps. Et donc là je pouvais même pas. J'avais mes bras qui marchaient, mais je pouvais pas aller chercher de l'eau, je pouvais pas aller chercher à manger, je pouvais pas. Et je comprenais pas pourquoi, donc c'était assez compliqué.
Et tu le vivais comment? Tu te disais que ça allait passer ou...
Oui. Oui. Après, chaque expérience est intéressante à vivre, donc j'observais, je réfléchissais. Ça me fait voir ça, ça me fait voir ça. Puis s'il arrive ça, c'est que j'ai quelque chose à comprendre. Oui. Donc je l'ai compris. Et après, c'est réussir à changer certaines choses.
C'est vrai que la santé, c'est tellement précieux.
C'est essentiel. Hein. Ouais.
Effectivement, décider de vivre dans la forêt et donc d'aller couper son bois, ça rend le quotidien physique. La modernité nous a...
Oui, parce que plus tu as de confort, moins tu es conscient des choses. Là, je me réveille le matin avec le jour, et puis les oiseaux aussi. Mmh. Je m'endors l'hiver à 5h, je suis couchée en fait.
Oui, je me demandais du coup le rythme des saisons.
C'est vraiment en lien, donc là tu vis vraiment avec la respiration de la terre en fait. Et c'est magique.
Et alors quelle est ta saison préférée?
Il n'y en a pas. Non, l'été j'adore, je me baigne plus. Au printemps j'adore, il y a tous les oiseaux qui viennent faire leur nid un peu partout. J'ai eu un jet qui a fait son nid l'année dernière là-haut. Il y a un bébé qui est tombé, donc j'ai fait venir une échelle et puis on l'a remis dans le nid. Et puis c'est magnifique, les jets bleus. J'ai des petites mésanges à qui je donne à manger des graines de tournesol tous les jours. Quand je suis dans la cuisine et qu'elles en ont plus, elles viennent à la porte, elles font du sur place. Ça arrange pour que je comprenne, je me crois Cendrillon par moment. C'est juste magique, quoi. Il y a des périodes, et je tiens un petit carnet avec certaines périodes où tous les ans, par exemple, il y a les salamandres qui vont, c'est, je l'appelle leur nuit de Belten, en fait, toutes les salamandres sortent. Les salamandres, c'est des animaux qui sont quand même toujours cachés, c'est rare de les voir dehors. Et, on va dire que comme ça, j'en vois peut-être un, au départ un par an ou tous les deux ans. Et une fois en rentrant, je suis rentrée un soir en particulier, où c'était leur nuit de Belten, et là j'en vois une, j'en vois deux, j'en vois trois, tous les 4-5 pas j'en voyais, et je les ai comptés. Je suis restée, au moins 2 heures à les observer, et je me suis arrêtée à 70 en fait. Il y en avait partout. Et c'est tous les ans à la même époque.
C'est-à-dire qu'elles sont là.
Et ouais, elles sont là, donc elles sont cachées, elles sont sous des souches, ou dans des trous aussi. Et donc, au départ, j'ai cru, je voyais une salamandre qui était sur l'autre, et puis avec sa tête qui bougeait de droite à gauche. Et puis hop, après, elle descend, puis elle part en voir d'autres. Je croyais que c'était le mâle qui était monté sur la femelle, tu vois. Puis après, hop, il part une autre, voir une autre. Et en fait, non, c'est la femelle
qui monte sur le mâle.
Et quand elle a fini, hop, elle le laisse, et puis elle va en voir d'autres. Et toutes celles qui n'ont pas été sont sans doute suffisamment ensemencées. Je ne sais pas si on dit comme ça. Les jours d'après, il y en a encore quelques-unes qui cherchent. Il y en a beaucoup moins. Sur 70 au départ, on va dire, il y en a 10-15 qui peuvent encore chercher, qui n'ont pas fini ce qu'ils avaient à faire les nuits d'après. Puis après, c'est fini.
Donc ça, c'est le printemps.
Parce qu'ici il y a des pics verts, des pics épêches. Il y avait deux bébés pics épêches qui venaient tous les jours manger aussi les graines. Et c'est magnifique. Mmh. Ils s'accrochent, ils ont leur long bec. Ils sont grands, rouges. Et j'ai depuis un an et demi un écureuil qui vient aussi. Alors là, il a plein de noisettes, je ne le vois plus. Mais sinon, c'est mon réveil matin quand je dors là. Il saute sur le toit, et puis il court, il fait son fou, et puis après il va manger, souvent je lui mets des noix ou aussi les graines de tournesol, et puis je l'observe. Je l'observe, il est en train de manger tout ça, il me regarde. Lui, il sait bien aussi quand je suis là.
Et tu vis vraiment avec eux, quoi.
Ah oui, ouais. Il y a un moment, j'avais pris des poules. Je m'étais dit, c'est sympa aussi d'avoir ces œufs, puis je les laissais en liberté. Mais le problème, au départ, c'était des grosses poules. Et en fait, les grosses poules, elles mangeaient les bébés crapauds et elles mangeaient même les orvets. Mais moi, les orvets, la population locale, elle est prioritaire. Il n'est pas question que j'amène un prédateur, quoi.
C'est un étang. Hein.
Oui, donc il y a jusque 8 mètres de profondeur. Et ici, c'est l'endroit où on va se baigner. Donc là, on peut faire 3-4 pas. Ici, avant, c'était un bleu électrique. On l'appelait la carrière bleue. Mais il n'y avait pas tous ces arbres-là. Donc il n'y avait pas l'humus dans le fond. Et il y avait plein de ronces autour. Et ça a été nettoyé. Mais du coup, maintenant, elle est plus bleue et j'aurais bien aimé qu'elle reprenne son bleu. Donc, je cherchais des plantes nettoyantes, j'avais trouvé celle-ci. Je suis arrivée ici, en fait, c'était assez infernal parce que il y avait des gens qui venaient dormir, mettre les tentes.
Ah ouais.
Il y avait des vélos qui passaient par 20 vélos en même temps. Il y avait des quads, il y avait des motos. Il y avait des gens, je sortais du cabanon, il y avait des personnes qui étaient allongées là, et qui se croyaient chez eux, c'était presque de partir. C'était assez difficile au début, et puis maintenant ça va
bien. Ils ont compris quoi, que c'était un lieu privé. Ouais. Toi, tu te baignes dans cette eau?
Tous les jours, presque.
Ah oui?
À part janvier, février, quand l'eau est vraiment froide. Mais sinon, je vais faire ma toilette dans l'eau le matin, et puis quand j'ai envie, je vais nager.
Ah ouais.
C'est juste du bonheur.
nager entre les nénuphars le matin tout seul.
Enfin, je vais te demander comment ça fonctionnait de faire ta toilette. Mais du coup, c'est ici.
Ah oui. J'ai installé une petite douche ici où je peux chauffer de l'eau et puis mettre de l'eau chaude dans la douche.
Ouais.
Mais en fait,
il n'y a pas un système de douche solaire non plus l'été.
Je peux la mettre à chauffer au solaire, mais bon, ça fait en fin d'après-midi, je préfère aller me baigner. En fait, quand il y a du soleil, je préfère l'étendre, donc j'y vais pas souvent.
T'as dû t'habituer à la température de l'eau à force.
Ouais, en y allant tous les jours. Ouais.
Qu'est-ce que c'est ça?
Là, en fait, c'est le système de solaire qui est là-bas. Il y a une pompe dans l'étang qui est alimentée avec le solaire. La pompe prend de l'eau et la met dans le tonneau. Elle décante et après j'ai plus qu'à aller la chercher et puis à la mettre dans d'autres, dans des fontaines purifiantes.
Ah, c'est de l'eau que tu consommes?
Oui. Oui, ici j'ai aucun raccordement.
Tu consommes l'eau de l'étang après justement plusieurs étapes
Mais avant, j'allais la chercher au seau. Donc, dès que tu fais la vaisselle, dès que tu nettoies, dès que tu fais ta toilette, dès que tu veux boire, c'est...
Et t'as jamais été malade?
Épuisant. Ah non, jamais, non.
Parce que t'as des systèmes de filtres.
Là, c'est des roches autour, donc c'est de l'eau, déjà, elle est filtrée. Il y a les arbres qui filtrent aussi. Elle est super. Et puis, j'ai des bons filtres après pour boire.
T'as un idéal d'autonomie parce que déjà t'es énergétiquement t'es autonome ici,
oui.
Sur l'eau aussi et sur l'aliment c'est hyper compliqué, quasi impossible, mais peut-être que tu manges un peu de plantes sauvages.
Les orties, beaucoup, je mange beaucoup d'orties. Ben là j'ai les camomilles en boisson qui sont délicieuses, bonnes pour la santé aussi. Comme ici, j'ai pas de terre, je suis obligée de faire venir la terre, c'est de la pierre, donc pour cultiver, donc c'est pas simple. Mais j'ai planté 4 pommiers, un poirier, le temps qu'il donne. C'est un peu long, mais ça fait déjà 5 ans, donc
ça devrait pas tarder.
Ouais. Autrement, j'ai les châtaignes là, qui vont donner bientôt, ça c'est génial. Il y a les glands de chêne aussi. Après, c'est
que
la
tu consommes.
Oui, j'en fais des petits pâtés. Beaucoup d'herbes, du plantain, toutes les herbes que je connais. Les ronces aussi, je fais beaucoup de tisane avec. Et puis sinon, tout ce qui est légumes secs, je l'achète en gros. Les légumes autrement, à 1 km à vol d'oiseau, il y en a. Donc je vais la rechercher. Et puis petit à petit je vois ce qui se plaît, ce qui se plaît pas. Framboise, cassis, myrtille. Petit à petit je remets.
Il y a beaucoup de murs en ce moment.
Murs aussi. Mais les orties déjà c'est la base. Mais ici pour venir je voulais un extracteur de jus qui puisse se mettre sur le solaire. Mais en fait comme ça tourne très lentement, ça peut aller sur le solaire. Et c'est tellement complet les orties, c'est délicieux, ça met vraiment en forme.
Tu fais 3 repas par jour?
Ça dépend. Ça dépend des saisons. En hiver, je me lève tard, je me couche tôt, donc là je fais un repas. En été, souvent je fais 2. Quand je suis gourmande, j'en fais 3. Donc quand j'ai du monde, j'en fais plus facilement 3. Ça dépend des jours.
Ton collier, il me fait penser à tous les chakras.
Ah oui, c'est un peu arc-en-ciel.
Ouais.
C'est une tribu du Mexique qui l'a fait, où ils ont été expatriés de leur terre. Et donc, maintenant, sur les marchés, ils font leur art, en fait. Et du coup, ça me parle. Sinon, habituellement, je ne mets pas de bijoux, mais celui-là, ça me parle. Et puis, il est le symbole aussi des 13 mères originelles. Enfin, pour moi.
C'est très joli.
Et de l'arc-en-ciel tournoyant.
Je me demandais si des gens avaient un rêve comme ça, tu vois, comme toi, de se dire, un jour je vivrai dans la forêt. qu'est-ce que tu leur dirais ?
D'écouter ses rêves. Mais écouter ses rêves, ça me paraît la chose la plus importante qu'on ait à faire.
Tenter de les réaliser.
Oui, et les partager. En fait, tenter, si on a envie, on peut. Pour moi, il n'y a rien
d'impossible.
Rien d'impossible, impossible, ça n'existe pas. C'est juste notre mental qui met des barrières. Mais si on veut vraiment quelque chose, on peut.
Est-ce que tu écoutes de la musique, par exemple ?
Non. Non, par contre, je vais prendre mon tambour ou des instruments, puis je vais chanter quand j'ai envie. Quand je chante, c'est plus émotionnel. Quand j'ai des choses à dire, je vais aller me promener, chanter.
T'extériorises.
Voilà. Non, ça me rappelle quand une fois j'étais partie avec mon sac à dos et marcher dans la forêt, et puis j'avais pris un hamac et j'avais pris un petit baladeur, enfin à l'époque, tu vois, pour écouter de la musique ou des choses spirituelles quand même. Mais voilà, et j'étais partie dans la forêt, je m'étais allongée dans le hamac, il y avait une petite cascade à côté, c'était génial. Et à un moment, j'ai voulu sortir ça du sac. Et là, j'ai dit, bon d'accord, j'avais l'impression qu'il y avait 50 personnes invisibles qui étaient autour de moi et qui étaient mortes de rire, qui disaient, mais elle n'est pas bien celle-là. Elle est dans un endroit avec des sons extraordinaires. Elle est sur le chemin spirituel et elle veut mettre un Walkman sur les oreilles et pas être dans le présent. Et je m'étais vraiment sentie bête, quoi.
Tu arrives à être autonome combien de jours ou d'heures ?
Oh ben je suis autonome tout le temps. Parce que ça charge suffisamment et ma consommation est assez petite.
T'as une petite batterie ?
Mais j'ai deux petites batteries. Mais l'hiver, je suis moins à l'extérieur. L'été, je suis beaucoup dehors, en fait. Dès qu'il fait beau, je peux que être dehors. Et l'hiver, je suis plus à l'intérieur. Mais c'est plus une énergie de travail, en fait, l'hiver. Hein. Ou de cocooning, d'avoir envie de regarder une émission ou un film. Et là, j'ai pas beaucoup d'électricité parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc, quelquefois, je peux même être sans téléphone pendant plusieurs semaines. Donc, je le charge chez mon compagnon, ou alors je vais à la médiathèque, je le charge, ou quand je vais chez le médecin. Si j'ai l'occasion d'aller quelque part, n'importe où, je charge un peu mon téléphone. Et c'est plus restreint, donc je prends un livre. Puis quand il fait nuit, je dors.
Oui.
Mais en même temps, mon corps, il est OK, quoi. Ça lui fait du bien.
Parce que sinon, tu t'éclaires comment l'hiver ?
Alors, soit il y a des bougies, ou soit j'ai des petites lampes
rechargeables.
Ouais.
Tu dois être pleine de gratitude face à ton corps qui va mieux.
Ah bah oui.
J'imagine que du coup, il y a aussi cette conscience de ton corps en forme que tu n'avais peut-être pas avant de tomber malade.
Avant de tomber malade, il était trois fois plus en forme quand même.
Ouais.
Ah oui, des fois j'ai un peu la frustration. Là, je ne me vois pas grimper tout en haut de la coquille avec la tronçonneuse ou la visseuse. Parce que je sais qu'il faut que je fasse attention quand même. Ça reste encore un peu fragile. Et puis, ça fait quand même 2 ans que je ne marche plus, que je ne cours plus, je nage un peu, mais c'est tout. Donc là, dès que je reprends, le cœur s'essouffle. Mais je sais que c'est pour un temps, je vais la reprendre, la forme. J'ai aucun doute là-dessus. Juste que je sois patiente.
Oui. Patiente ou de se remettre en mouvement, peut-être de partir en randonnée ou autre.
Oui, voilà. Mais un pas après l'autre, quoi. Est-ce que je peux pas... Enfin, si, les jours derniers, je suis partie marcher un petit peu. Mais je m'essouffle quand même. Enfin, je ne vais pas marcher pendant 5 heures sans arrêter. Donc, la maladie, c'était aussi, si j'étais bloquée, c'est pour apprendre à écouter mon corps et à me respecter, parce que c'était mon mental qui prenait le dessus et qui dit non, mais tu vas faire ça, et puis tu vas, et le corps, il n'était pas toujours OK. Mmh. Donc là, j'apprends à respecter mon corps plus. Mmh. Mmh.
T'écouter.
À m'écouter, à aller à un rythme plus tranquille, à me faire plaisir, à plus penser à moi, moins aux autres. Ça, c'est le gros truc. C'est très difficile.
Il faut déjà être bien avec soi-même avant d'offrir.
Oui.
Et quand je vois comment on peut être de très bons conseils pour un ou une meilleure amie, et comment parfois pour envers soi-même, comment on peut être dur.
Allez, on est extrêmement dur, on est les plus gros tortionnaires, c'est nous avec nous. Donc c'est bien de faire des pauses et de te dire, bon, si tu étais ta meilleure amie, qu'est-ce que tu me dirais aujourd'hui? Et revisiter le passé, c'est important d'aller nettoyer aussi tout ce qu'on a construit comme... comme conscience fausse, en se croyant victime de situations qu'on a pu vivre, alors que, en fait, maintenant, quelle que soit la situation, le fait que j'ai eu Lyme, que j'ai pu me sentir bloquée, mais en fait, c'est que des cadeaux et ça nous permet de rebondir et d'aller encore plus loin et toujours plus beau.
Ben c'est vrai que si on s'enlève notre statut, comme tu dis, un peu de victime, on reprend de la liberté et du pouvoir.
Ah ben complètement, on reprend notre pouvoir et notre vie en fait.
Ou quelle est la chose la plus précieuse pour toi?
Que le beau est à venir à chaque jour encore en plus et que tout est parfait et que c'est OK. Toute expérience à vivre.
Tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans, ici, du coup?
Alors, j'ai aucune idée parce que j'essaye de plus faire de projets mentaux et je suis ce qui arrive.
Toujours le jour.
Ouais. Donc, je ne sais pas si dans 5 ans je serai ici. J'essaierai juste de suivre le chemin.
D'écouter
qu'on m'invite à suivre. Ouais. Et là, j'ai pu acheter un petit champ juste un petit peu plus loin, là. Et là, je vais planter au moins 25 fruitiers.
Ah, c'est
donc, c'est chouette.
Ah oui, donc là, même si tu veux envisager mettre des courges, par exemple, ou des choses comme ça, tu vas pouvoir aussi.
Ouais.
Quelques cultures plus longues qui ont besoin d'un peu de soleil, comme la plupart des
cultures. Oui, c'est ce que je me disais. Je pourrais aussi planter autre chose là-bas. Ouais. Après, je ne pourrais pas aller arroser et les limaces.
Ah bah oui. Voilà. Bah là, aujourd'hui, là, on a des amis qui nous ont ramené 3 coureurs indiens.
Ah oui.
Pour manger les limaces, justement. Parce qu'on a été complètement envahis cette année. Et, donc c'est bien, tu auras un petit potager.
Donc oui, cette année. Enfin, l'année prochaine, principalement. J'ai essayé les tomates, donc je savais bien que...
Ce serait compliqué. T'as pas assez de soleil.
Et puis il a beaucoup plu et ça a bien donné quand même, mais je les ai plantés trop tard parce que j'avais pas encore d'eau, de terre. Il faut les remonter à la brouette, la terre. Et...
On aurait dit qu'on nous appelait, tu sais, genre.
Peut-être. Je vais aller voir, mais si ça se trouve.
Ah, en fait, ils t'ont appelé pour te dire qu'ils n'avaient plus de graines. Tu crois qu'ils se consomment ces champignons-là?
J'ai ensemencé les trous.
Ah oui.
Donc à la perceuse, j'ai fait plein de trous. Et puis j'avais commandé des chevilles de bois qui sont ensemencées aux pleurotes. Et je les ai mises dedans, j'ai fermé avec de la cire d'abeille. Et puis je les avais mis vraiment dans un endroit humide, en contrebas assez loin. Et j'en ai eu un petit peu l'année dernière. Et puis là, il y a 2 semaines, j'ai dit à ma mère, tu peux me les remonter parce qu'il y a des ronces et tout, j'ai du mal à y accéder. Et puis alors là, ça fait peu de temps qu'ils sont là. Et là, qu'est-ce que je vois?
C'est génial. Tu dois être trop contente. Ouais. C'est hyper agréable. Et c'est vrai que moi, Là, j'ai l'impression que c'est un peu le climat idéal, tu vois, même si il commence à faire un peu frais.
Mais... En hiver, tu te mets au chaud près du feu.
Wow, en fait, c'est pas trop le froid, je crois, qui m'est frais, moi, c'est l'humidité sur de longs jours, quoi.
L'humidité, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Enfin, moi, j'ai perdu beaucoup de... Ben, en plus, au départ, c'était la serre. Puis la serre, ben, il y a toujours des branches, des choses qui tombent dessus.
Ah oui, donc il y a de la moisissure.
Et j'ai perdu beaucoup de livres, de vêtements, de choses comme ça. Et oui, parce que ça moisissait,
bah oui.
S'abîmait. D'où l'importance de chauffer régulièrement pour que ça prenne pas non plus l'humidité, les choses. Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer, l'humidité.
Tu vois un peu de chevreuil?
Oui. Ouais. Pas souvent. Quand ils ont soif, des fois, ils viennent jusque-là.
Ou
des fois, ils se promènent par derrière. Mais par derrière, c'est toute cette partie-là, cette zone-là, jusque l'entrée. J'y vais quasi jamais. Parce que je trouve que c'est important aussi de laisser un espace que à la nature, en fait, et pas d'y mettre les pieds. Je trouve que ce serait bien n'importe où on habite, même si on a un tout petit jardin, proportionnellement, de laisser un espace juste à la nature. Les fleurs qui doivent pousser plus, les ronces, les n'importe, mais on n'y touche pas, ça fait un abri et pas toujours tout prendre comme si tout nous appartenait.
Il y a beaucoup d'oiseaux là.
Ah oui, des fois il y en a plus de 30. Et je leur ai mis une petite baignoire, là, ça fait quelques mois.
Oh, ils adorent. C'est leur maison, quoi.
Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils savent où je dors. Parce que si je dors dans le cabanon là-bas, le matin, ils viennent chanter devant. Ils se mettent sur le petit banc, ils viennent chanter là. Et quand je suis dans la tente, ils viennent voler, ils frôlent, ils se mettent au-dessus, ils font tour. Quand je suis là, ils tapent au carreau.
Et alors, du coup, tu as un matelas dans chaque petit abri. Et le soir, tu décides où est-ce que tu as envie d'aller dormir. Tu emmènes ta petite couette et puis...
J'ai la couette qui est
dans chaque.
Et puis voilà, quand on est en stage, on dort tout ici. Une fois, on avait dormi à trois dans la tente. Je comptais leur laisser la tente et puis me dormir n'importe ailleurs. Là, on avait envie qu'on dorme ensemble, donc on a dormi toutes les trois ensemble.
Quand je te vois marcher comme ça devant moi avec toutes tes couleurs, c'est vraiment, je me dis, la gardienne de ces lieux. Je voyais que tu avais 5 dreads de couleurs différentes. Elles ont quel âge ces dreads?
Mon petit-fils, il a 4 ans et demi.
Je savais
pas. Et je me suis rasé la tête quand il avait 4 ans et demi.
Mais c'est incroyable, non?
Je sais pas comment les autres cheveux poussent, mais oui, ils poussent assez vite.
En 4 ans et demi, c'est long comme ça?
Oui, et encore, je l'ai recoupé plusieurs fois. Et donc ici, c'est les couleurs des 13 mères. Donc chaque mère a sa couleur dans l'enseignement de sagesse amérindien. Et là, on est à la mère rose, dont la couleur est le rose.
Petit Bouddha.
Ouais. C'est marrant, mais ça fait un moment, depuis l'été dernier, que je l'ai peint. Il n'a pas bougé, il ne s'est pas sali du tout.
Oui, c'est vrai, c'est fou ça. Alors qu'il est juste sous un arbre.
Oui. Ah oui, normalement il devrait être vert.
Bah oui.
Rien du tout.
Mais ça, c'est des choses qui ne te surprennent pas, toi?
Non. Bon, ok, il se plaît bien là, c'est sa place.
quoi la petite cabane qu'on voit au fond là?
Bah, tu veux aller voir?
D'un mètre carré. C'est peut-être les toilettes sèches, non?
Oui.
Ah oui. Ah oui, donc les toilettes avec trois murs, hein, voilà, pour pouvoir observer la nature.
Et la vue sur les arbres.
Trop chouette, j'adore. Donc là, c'est la yourte aussi où tu reçois...
Voilà.
Où tu reçois pour les cours de yoga, entre autres, non,
non c'est oui, ton... pour les stages. Là, je donne l'enseignement des 13 mères originelles en ce moment. Un week-end par mois d'immersion dans la forêt. Et donc, c'est l'espace où on vit et où on dort aussi.
C'est là où tu dors?
Ça dépend des jours.
Ok.
Mais quand il y a du monde, ça va être ici que je vais mettre les matelas pour que, pour que la pièce devienne dortoir un peu. Et non, moi, des fois, c'est ici. Des fois, c'est dans la tente qui est plus loin. La carter, le petit cabanon. Ça dépend des jours, d'humeur, du temps.
Il y a beaucoup de gens qui viennent ici?
Non, pas énormément. Pas énormément, puisqu'en même temps, c'est un lieu qui a été sacralisé. Et donc, je peux pas ouvrir à tout le monde, en fait. C'est un peu trié, quand même. Parce qu'il y a un taux vibratoire et, qui est très haut, un respect du lieu, des élémentaux, des pierres, des animaux, des plantes, de tous les règnes qui est important. Et,
Soit pour des soins en individuel,
ouais.
Soit pour des expériences collectives. Ou...
Voilà, soit des voyages sonores, la relaxation, ou des stages de développement personnel. Ou juste un besoin de reconnexion avec la nature, parce que ça va plus du tout.
Ben, j'ai pas laissé mon téléphone à la maison, mais je l'ai mis en mode avion.
Parfait.
J'aurais pu aussi le mettre dans ma voiture, le laisser dans la voiture, c'est vrai. Ben, merci beaucoup. Hein.
Eh bien, je t'en prie.
Je suis contente d'avoir découvert tout ça. Et non, mais merci d'avoir pris le temps et de m'avoir ouvert les portes aussi de ton lieu. Ça me touche, c'est gentil.
C'était Écouter pour mieux s'entendre, une émission qui propose le portrait sonore des personnes qui ont fait le choix d'une vie atypique.